Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Tous les êtres vivants ont des stratégies de résistance au froid. On connaît bien sûr l'hibernation, la thermorégulation, ou encore les changements de mode de vie qui concernent jusqu'à l'espèce humaine. Mais qu'en est-il des plantes ? C'est la question à laquelle répond ce numéro des Chemins de la connaissance de Françoise Breton, où elle s'entretient avec la chercheuse Aline Reynal-Roques. Professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, cette botaniste spécialiste de plantes tropicales nous guide à travers les mécanismes de survie surprenantes des plantes face au froid. On y apprend notamment que la résine ne gèle qu'à très basse température, mais lorsque cela se produit, l'arbre explose littéralement, dans une détonation violente. Une émission réalisée par François Connac, diffusée pour la première fois le 27 janvier 1997.
L'hiver est un pays de sommeil et de songe. De bêtes enfouies au bout de galeries souterraines qui font sonner creux sous les pas la campagne immobile et nue dans l'air de glace en attente. Louis Broquier.
À l'instar des autres êtres vivants, les plantes ont besoin de chaleur pour être en activité. Comme elles en produisent très peu elles-mêmes, elles sont tributaires de la température extérieure, si bien que, lorsque cette température baisse sensiblement, l'activité végétale se met au ralenti en attendant des jours meilleurs. Mais l'hiver est aussi une période dangereuse pour les plantes. L'eau contenue dans leurs cellules et dans leurs sèves peut geler et conduire à la mort des végétaux. Aline Reynal-Roques, comment les plantes se préparent-elles à cette éventualité ?
Les organes essentiels à l'activité métabolique, c'est bien entendu les feuilles. Les feuilles qui sont le siège de la nutrition carbonée, puisque ce sont les feuilles dans lesquelles se fait la photosynthèse qui fabrique les sucres, les hydrates de carbone, que la plante va constituer à partir du gaz carbonique pour se nourrir, pour se construire. Et ces feuilles sont, de toute évidence, des organes fragiles, toujours gorgés d'eau et très sensibles au gel.
Qui est la raison, je suppose, pour laquelle l'arbre s'en débarrasse au moment où il commence à faire froid.
Exactement. La chute des feuilles annonce l'hiver, mais la chute des feuilles n'est pas la conséquence immédiate des premiers froids. Les feuilles tombent avant les froids, de façon à ce que la cicatrice des feuilles soit déjà faite avant même que la feuille tombe. Il n'y a donc pas de blessure sur les rameaux au niveau des feuilles qui tombent. Et lorsque les feuilles sont tombées, l'arbre est protégé du gel dans la mesure où ses organes qui auraient pu être endommagés sont déjà partis.
Alors par contre, il reste le tronc et le tronc lui-même est aussi susceptible de geler. Et donc là, il y a d'autres processus qui se font au niveau du tronc.
Oui. Alors le tronc peut aussi geler, mais seulement par très grand gel. Parce que ce qui se passe, c'est que le tronc contient de la sève qui se concentre en éléments multiples et en particulier en éléments de nature glucidique.
Ce sont des sucres.
Des sucres. Et donc, cette sève ne peut geler qu'à très basse température. C'est exactement le même phénomène que ce que l'on observe, par exemple, la mer qui contient du sel ne peut geler qu'à plus basse température que l'eau douce. Eh bien, c'est un phénomène parallèle et le tronc est donc protégé pour des froids, nous dirons moyens. Lorsque le froid devient très intense, cette sève peut arriver à cristalliser, à geler à l'intérieur des troncs. Et c'est un phénomène qui risque de devenir dramatique pour les arbres dans la mesure où, comme chacun le sait, quand l'eau prend en glace, son volume augmente. L'eau fait partie de ces grandes curiosités de la nature qui présente des caractéristiques qu'aucun autre produit ne présente. Et alors, le résultat, c'est que l'augmentation brutale du volume de l'eau contenue dans les troncs peut les faire exploser. Lorsque un tronc éclate sous l'effet du gel, c'est un bruit brutal comparable à un coup de feu important, peut-être même à un coup de canon. Et le tronc se fend du haut en bas.
Alors les sapins, par exemple, qui ont des feuilles, je pense aux feuilles, qui sont donc des épines et qui sont persistantes pendant l'hiver, donc elles aussi ont une concentration de produits qui les empêchent de geler.
Exactement. Les arbres qui gardent leurs feuilles en hiver ont des stratégies, en quelque sorte, de résistance au froid. Alors vous parlez des sapins, qui sont des arbres qui résistent assez bien au froid, puisqu'ils existent jusque dans les pays nordiques. Et ces arbres-là contiennent en particulier de la résine, qui est une substance qui s'oppose au gel. Et donc, les aiguilles des sapins ne gèlent que très très difficilement. Par contre, il y a d'autres arbres que des conifères qui gardent leurs feuilles en hiver, comme par exemple le laurier cerise, ou qu'on appelle aussi le laurier palme, dont on fait beaucoup de haies, ou le laurier sauce. Ce sont des arbres qui gardent leurs feuilles, et ce sont des feuilles normales, mais un peu coriaces. Eh bien, ces arbres-là ne résistent pas à des froids exceptionnels.
Et je crois qu'il y a un autre système de lutte, c'est au niveau du système racinaire. J'ai compris qu'en fait, l'absorption des sels minéraux dans le sol était plus lente quand la température est basse et qu'il y a une espèce de compensation au niveau du système racinaire.
Oui, le gel peut atteindre quelques décimètres de profondeur, parfois un peu plus, mais ce n'est jamais un gel aussi intense que celui que nous avons dans l'air. Donc les racines sont moins exposées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est très difficile de garder un arbuste dans un pot de fleurs sur un balcon, parce que le gel pénètre par toute la périphérie du pot de fleurs et va congeler les racines, alors que si le même arbuste était en pleine terre, il enverrait ses racines suffisamment profondément pour qu'elles soient à l'abri du gel. Évidemment, le métabolisme des racines implique une certaine température. Quand la température décroît, le métabolisme se ralentit et donc l'absorption ralentit également. Cette absorption plus faible s'accompagne d'une concentration à l'intérieur des racines. La sève et le suc contenu dans les cellules, dans les racines, a tendance à se concentrer et tout naturellement, elles gèleront encore plus difficilement.
Mais alors là, ce sont des plantes qui ont trouvé des systèmes pour lutter contre le gel ou en tout cas abaisser la température à laquelle ils vont geler. Mais il y a des arbres qui admettent le gel, c'est-à-dire en fait qui ont pris comme solution d'autoriser un certain gel qui les protège.
Oui, il y a des arbres qui, il y a pas seulement des arbres, il y a aussi des herbes qui gèlent complètement avec cristallisation à l'intérieur de leur tissu. Et c'est un fonctionnement normal pour eux. Autrement dit, ce sont des végétaux qui ont une souplesse qui permet à leur tissu de gonfler sous l'effet du gel sans pour ça être détruit. C'est exactement ce que nous observons lorsque nous voyons la différence entre un tuyau d'acier qui gèle et un tuyau de plastique qui gèle. Le tuyau de plastique résistera mieux parce qu'il est légèrement souple. Le tuyau d'acier éclatera.
Alors je crois qu'il y a un système particulier qui autorise ce gel, c'est-à-dire que le gel n'est pas autorisé n'importe où dans le tissu, mais conserve les cellules intactes.
Ce qui est la... Oui. Il y a l'accumulation de différents produits du type composé pectique en particulier dans des zones particulières et il y a des espèces de lacunes entre les cellules dans lesquelles le gel se produit. Ce qui fait que les cellules se trouvent abritées, en quelque sorte, entourées par des amas de glace.
Alors je crois qu'il y a des arbres qui peuvent rester gelés comme ça dans les régions nordiques très froides pendant même plusieurs mois.
Oui, parce qu'ils se trouvent en vie complètement ralentie. Et on peut dire qu'ils vivent sur leurs réserves à tout point de vue, y compris leurs réserves en eau, en attendant que le dégel survienne. Et la vie ralentie, qui peut durer des mois, est observée dans bien des circonstances, soit à l'égard du froid, soit à l'égard de la chaleur, soit à l'égard de la sécheresse.
fête de la chandeleur. Perce, 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 neige, annonces-tu la chandeleur, le soleil et son cortège de chansons, de fruits, de fleurs. Perce, 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 neige, à la chandeleur.
Là, ce sont des arbres qui sont très sensibles au froid parce qu'ils sont en plein vent. Mais si on pense aux plantes qui sont sous la couche de neige qui recouvre le sol, ce ne sont pas les plus mal loties. En fait, la température à ce niveau-là est beaucoup plus clémente.
Oui, exactement. La neige constitue un élément extrêmement favorable pour les végétaux. Et évidemment, les arbres échappent à la neige étant donné leur dimension, dans la plupart des cas, pas toujours. Il y a certains arbres qui sont, je dirais, suffisamment astucieux pour se faire cacher par la neige, eux aussi. Et je pense tout de suite aux saules nains des hautes altitudes dans les Alpes, que l'on trouve également dans les pays nordiques, qui sont des saules, donc des arbres, qui font 1 à 2 cm de haut et qui s'étalent complètement à l'horizontale. Et ces saules qui vivent dans les Alpes françaises jusqu'à plus de 3000 ne peuvent pas être cultivés en plaine parce qu'ils sont tués par le plus petit gel.
Oui, c'est le paradoxe.
Et tout simplement parce que la neige fait une couverture. Comme la neige est un tissu lâche de cristaux d'eau qui emprisonne énormément d'air, cet air est très isolant. C'est cet air emprisonné dans les petits cristaux de neige qui donne à la neige sa couleur blanche. Et donc, c'est une couverture, c'est vraiment comme une couverture de mohair, qui est tout à fait efficace, et sous la neige, la température, en général, est comprise entre 0 et plus 1 ou plus 2.
Je crois qu'il y a même des fleurs qui arrivent à pousser dans la neige, bon, à la fin de l'hiver, bien sûr, mais enfin quand même qui poussent sous la neige.
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de végétaux qui commencent leur croissance quand la neige a diminué d'épaisseur, mais qu'elle recouvre encore largement la végétation, et en particulier les fleurs se développent. Et pourquoi les fleurs et pas les feuilles? Eh bien parce que la feuille a besoin d'être vraiment à l'air libre pour recevoir le soleil directement, pour pouvoir faire la photosynthèse et développer sa chlorophylle pour être l'organe qui va permettre à la plante de se construire. La fleur doit se développer le plus vite possible pour assurer la fécondation de la fleur et donc la production de graines pour assurer la génération suivante. C'est une contrainte prioritaire chez les végétaux. Et pas seulement chez les végétaux d'ailleurs. Donc cette fleur va pouvoir se développer simplement en utilisant les réserves nutritives contenues dans l'organisme végétal. Et s'il y a de la neige sur elle, eh bien elle va pousser doucement dans la neige. Comment se fait-il que la neige ne pèse pas sur cette petite fleur qui essaye de monter et de s'allonger? Bien, tout simplement parce que quand la fleur est en croissance, elle a une activité métabolique qui dégage un peu de chaleur, comme toute activité métabolique, juste assez de chaleur pour que la neige au contact du bouton floral fonde sur une couche infime mais suffisante, et comme ça, de proche en proche, la plante arrive à creuser un tunnel vertical en faisant fondre la neige qui est à son contact. Et la fleur arrive à sortir de la couche de neige pour s'épanouir, enfin, au plein jour. Elle ne s'épanouit pas dans la neige, elle s'épanouit juste au-dessus.
Oui, je crois qu'il y a une fleur d'Amérique du Nord qui s'épanouit comme ça aussi à presque, presque moins 15 degrés.
Oui, 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 oui. Et alors ça, elle est de la famille des aracées. Et les aracées, c'est les arômes que vous connaissez probablement, ont des fleurs minuscules rassemblées sur une sorte de petit bâton qui est entouré par une spathe en cornet. Ce cornet a donc la possibilité, si on peut dire, de rassembler et de concentrer la chaleur métabolique produite par les petites fleurs qui sont à l'intérieur. Et cette chaleur devient suffisamment sensible pour que ce cornet chargé de fleurs puisse arriver à fleurir et à se développer dans la neige, même si la température est basse, au moins pendant la nuit. Parce que lorsque cette fleur s'épanouit, quand même dans la journée, ce ne sont plus des températures extrêmes. C'est tout à fait à la fin de l'hiver.
Toutes les parties de la plante ne sont pas sensibles de façon identique au froid. Et par exemple, les bourgeons sont plus sensibles que d'autres parties de la plante. Mais il y a une espèce de système pour les protéger au-dessus.
Oui, en fait, les bourgeons ne sont pas plus sensibles que d'autres parties de la plante. Ils sont peut-être moins sensibles, parce que les cellules qui constituent les bourgeons sont très petites et le suc cellulaire y est assez concentré. Donc, ils ne gèlent pas très facilement. D'autre part, les bourgeons sont protégés par ce qu'on appelle des écailles, qui sont assemblées en couches successives pour faire un petit capuchon tout à fait étanche, pour empêcher l'eau, les spores de champignons, les bactéries et toutes ces vilaines petites choses d'attaquer les bourgeons. Et alors, entre ces écailles qui protègent le bourgeon, il y a des films d'air. Comme il y a plusieurs couches d'écailles, il y a plusieurs couches d'air et donc une très bonne isolation.
Alors, je crois que les plantes qui résistent le plus au froid, ou en tout cas au froid le plus intense, les derniers, je dirais en allant vers le froid croissant, ce sont les algues et les lichens.
Oui, en fait, les lichens surtout résistent très très bien parce que les lichens constituent des végétaux très particuliers puisque c'est un assemblage. Le lichen n'est pas un être vivant comme les autres, ce n'est que l'association intime et très particulière entre un champignon et une algue. L'algue, si elle était seule, ne résisterait pas bien au froid. Le champignon a la propriété de produire des substances, des composés pectiques, des substances qui abaissent considérablement le point de congélation. Et alors, tout naturellement, le champignon enveloppe l'algue de sa protection, assure à l'algue une garantie contre le froid. L'algue peut pratiquer la photosynthèse chaque fois que ça lui est possible, possible au point de vue de la présence d'eau libre, de la lumière et de la température. L'algue nourrit le champignon et le champignon la protège.
C'était Les chemins de la connaissance, la vie sous la neige, avec Aline Reynal-Roch, professeure au Muséum national d'histoire naturelle. Une émission de Françoise Breton, texte lu par Claude Berman, prise de son Serge Ristich, mixage Pierre Bornard, réalisation François Connac.
C'était un numéro des Chemins de la connaissance diffusé pour la première fois le 27 janvier 1997.